Bonjour.
Salut, Leïla. Tu parles d'où?
Je parle d'où? Je parle de, comme dit Marguerite Duras, nous sommes là où se fait notre histoire. Je m'appelle Leïla, je suis metteur en scène. Je suis effectivement d'origine syrienne, même si c'est pas vraiment ça qui est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est là d'où je parle, c'est que depuis 4 ans, depuis le début de la révolution en Syrie, ça me préoccupe beaucoup et je m'y intéresse beaucoup. Donc j'ai lu à peu près tout ce qui est sorti sur le sujet depuis quelques années, même si là, depuis quelques mois, il y a une telle overdose qu'il arrive un moment où il faut aussi prendre une distance. Voilà. Donc tu voulais qu'on parle de ce qui se passe en Syrie.
Ouais, voilà, peut-être nous apporter une lecture un peu plus claire, d'arriver aussi à mettre un peu de profondeur et du relief sur ce qu'on voit, parce qu'en fait, comme tu le dis, effectivement, il y a beaucoup d'informations. Personnellement, j'ai l'impression de complètement m'y perdre. Voilà.
Alors, je ne sais pas si on peut commencer par un rappel historique, puis peut-être après tu poseras d'autres questions. Ce qui me semble extrêmement important de rappeler aujourd'hui, début 2015, c'est les débuts. Mmh. Et le début en Syrie, ça a été donc dans la vague des printemps arabes qui ont commencé en 2010 avec la Syrie et puis l'Égypte. En avril 2011, la contestation a gagné la Syrie. Elle a gagné la Syrie de manière au départ très anecdotique, puisque toutes les révolutions arabes ont été extrêmement médiatisées et ont été extrêmement suivies à la télé et sur les réseaux sociaux, donc en Syrie aussi. Et en avril 2011, dans une petite ville pas très loin de Damas, qui s'appelle Dera, il y a eu des enfants qui ont graffité des slogans en reprenant les slogans qu'il y avait eu en Tunisie et en Égypte, à savoir « Dégage », qui ont repris ces slogans en les écrivant au mur. Ces enfants étaient âgés de 9 à 14 ans. Ils ont aussitôt été arrêtés par la police et torturés. Et quand les pères de ces enfants sont allés auprès de la police pour réclamer les enfants, la police a répondu « Vous pouvez oublier vos enfants, retournez chez vous et faites-en des nouveaux, et si vous n'en êtes pas capable, envoyez-nous nos femmes, on va s'en charger. » Ce qui, en termes de cohésion sociale, est quand même une réaction assez...
Ça, c'est la police...
C'était la police locale, c'était les services de sécurité. Bon, comme rappel historique, ce qu'il faut aussi dire, c'est que ça arrivait à un moment où, en Syrie, il y avait une dictature extrêmement féroce qui dure depuis 40 ans, depuis l'arrivée du parti Baas au pouvoir en 1970, et qu'au début des années 2000, on a cru, suite à la mort du président Hafez al-Assad et à la nomination de son fils comme président, enfin pardon, c'était une élection, hein, il a dû gagner à 99,4% des voix, après une modification de la Constitution, puisqu'il était trop jeune pour être candidat, mais que c'est pas grave, on a modifié la Constitution pour qu'il lui permette d'être candidat et donc d'être élu. Ce jeune fils qui avait à l'époque entre 30 et 35 ans était quelqu'un qui présentait bien en Occident, puisqu'il avait fait ses études d'ophtalmo à Londres et qu'il est parfaitement anglophone et que c'est un monsieur... Il a tout sauf l'apparence d'un barbare. J'en parle de cette apparence parce que je pense qu'elle compte aujourd'hui encore. Et si on se réfère à l'interview d'hier soir sur France 2, c'est important d'avoir un dictateur qui n'est pas barbare et lyrique comme pouvait l'être Kadhafi avec ses femmes, ses tantes et ses chameaux, mais qui a l'air un peu monsieur tout le monde.
Hier soir, pour préciser, donc, quel 21 avril.
Voilà, oui, nous sommes le 22 avril 2015. Donc... En avril 2011, cet incident entre des enfants torturés et une police extrêmement méprisante, que je qualifie d'incident, mais ça met le feu aux poudres et ça déclenche une série de manifestations qui, au départ, sont des manifestations extrêmement populaires, qui sont des manifestations plutôt rurales et qui sont des manifestations qui ne demandent pas la chute du régime et qui demande des réformes. Donc on a des gens qui tout d'un coup descendent dans la rue pour réclamer, comme ils le disaient eux-mêmes, la levée de l'état d'urgence et pour réclamer du pain, la liberté, la dignité et la justice. Et donc on a une population qui est une population plutôt pauvre et rurale qui se soulève contre des états d'injustice, contre des états de corruption du pouvoir, et des états d'injustice entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Les premières réactions du pouvoir sont extrêmement répressives, puisque très vite, le pouvoir tire sur les manifestants, donc les manifestations enflent, les manifestations se répandent, et puis... Petit à petit, loin de se calmer, ça ne se calme pas du tout, au contraire, ça enfle. Et ça enfle, au début, il faut vraiment aussi rappeler, c'est des choses qu'on oublie, mais il faut le rappeler, parce qu'on essaye de nous faire croire à un scénario de guerre civile qui serait en marche depuis le début, ça n'était pas le cas. Toutes les contestations qui avaient lieu en 2011 et 2012 étaient unitaires et pacifistes. Les slogans, c'était 1-1-1, le peuple syrien est un, alors que la Syrie est, d'un point de vue ethnique et confessionnel, extrêmement composite. Mais ce qui caractérisait tous ces manifestants, c'était une conscience nationale, une volonté d'unité nationale, le refus d'une intervention étrangère. Dès le début, le peuple était contre une intervention étrangère. Et le refus d'une action militaire. Les manifestants étaient pour une action pacifique. refus de prendre les armes et tout ça. Il faut dire aussi à ça que le régime, dans les quelques mois, fin 2011, jusqu'à mi-2012 à peu près, a tellement durci son action que petit à petit, les mouvements de contestation se sont militarisés et qu'il y a eu des gens qui ont pris les armes déjà pour répondre à la violence d'État, à la violence des flics. Voilà, donc ce processus de militarisation de la contestation a eu lieu et a donné lieu bien évidemment aussi à une division de la contestation. Et à partir de ce moment-là, on a vu apparaître des groupes qui représentaient des points de vue distincts et divergents. À partir de 2012, la répression du côté du pouvoir s'est amplifiée de manière énorme puisqu'on a vu apparaître l'armée. Le pouvoir a envoyé l'armée contre les civils. Ça a donné lieu à... Enfin, les choses qui sont restées vraiment dans l'histoire, ça a été le siège de Homs, de la ville de Homs, qui a été pendant des mois et des mois... Enfin, c'est pas la ville. Dans aucune ville, le régime ne s'est permis de tout détruire, mais comme on me le dit, c'est pas toute la ville, tu sais, ce sont seulement les quartiers rebelles. Comme si les quartiers rebelles, de par leur soulèvement, avaient mérité d'être détruits. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on a affaire à un pouvoir qui n'a à aucun moment hésité devant toutes les mesures de rétorsion. Donc arrestation, torture, tirer sur les manifestants, et puis finalement bombarder les quartiers. Petit à petit, alors parallèlement à ça, il y avait un mouvement d'opposition politique qui était assez inorganisé et qui était aussi divisé entre les comités locaux sur place et puis une opposition en exil très importante puisque, comme la Syrie est une dictature depuis 40 ans, il y a plusieurs générations d'exilés politiques qui étaient prêts, eux, à s'organiser et à se coordonner. Il faut dire aussi... Je le rappelle, parce que ça me semble important, que toutes ces représentations politiques à l'étranger ont toujours demandé l'aide des gouvernements occidentaux et une aide à la fois logistique et au bout d'un moment une aide militaire aussi. Les gouvernements occidentaux, notamment la France et les États-Unis, à chaque fois demandaient plus de gages, demandaient plus de garanties, disaient « Ah oui, mais il semblerait que l'opposition syrienne ne soit pas encore assez structurée, il semblerait qu'il manque... tel et tel aspect pour que ça soit vraiment démocratique, il semblerait qu'il fait bon. » Donc on a eu à la fois une opposition politique qui n'était pas assez structurée, mais qu'on n'a pas du tout aidé à structurer, qui était très très morcelée. Pour moi, il est impossible de parler de guerre civile. Elle a lieu, la guerre civile, elle est là, elle est en marche depuis 2 ans. Mais on ne peut pas considérer cette guerre civile sans considérer les jeux de pouvoir stratégiques internationaux. Chaque fois qu'il y a eu des plaintes de la part de certains États au Conseil de sécurité de l'ONU qui mettaient en cause le régime syrien, soit dans le bombardement des villes, soit dans des massacres à l'arme blanche, où tout d'un coup il y avait 250 civils qui étaient massacrés à l'arme blanche, soit au moment de l'utilisation des armes chimiques en août 2013, à chaque fois... la Russie posait son veto au Conseil de sécurité de l'ONU.
Ainsi que la Chine, c'est ça ?
Ainsi que la Chine. La Chine a une position que je qualifierais de plus prudente. La Chine, de toute façon, redoute une chose, c'est une explosion d'une rébellion ou d'un combat islamiste à l'intérieur de ses frontières. Donc elle est extrêmement répressive de ce côté-là. La Russie craint peut-être ça aussi, sauf que la Russie, avec la Tchétchénie, ils sont déjà allés aux limites de la guerre urbanicide et génocidaire. Donc, au contraire, j'ai l'impression qu'ils savent faire. Oui. Toujours est-il que la Russie est un soutien sans faille pour le régime d'Assad. La Russie vend ses armes au régime d'Assad depuis le début. Quand le régime d'Assad bombarde les villes et bombarde les civils, c'est avec des MiG de fabrication russe. Donc, on a quand même affaire à une situation où, depuis le début, il y a deux poids, deux mesures. Il y a des rebelles qui sont prêts à prendre les armes, mais qu'on refuse d'armer de manière efficace, c'est-à-dire que les groupes armés syriens demandent depuis 2 ans des missiles sol-air et une DCA pour contrer les attaques d'aviation, et on ne leur la fournit pas. Et de l'autre côté, on a effectivement Poutine qui écoule ses stocks d'armement. La situation aujourd'hui, elle est extrêmement compliquée, effectivement, puisque face à l'attentisme occidental, face à la continuité du soutien russe, le régime syrien s'est aussi fourni 2 alliés de poids qui sont l'Iran et le Hezbollah chiite libanais, qui soutiennent le régime de manière extrêmement concrète à l'aide d'armes, de soutien logistique et de conseils militaires et de soldats, puisque régulièrement, il est question de chiites libanais qui meurent au combat en Syrie. Il en est de même pour les pasdaran iraniens. Avec l'apparition de l'État islamique en fin 2012, la situation s'est extrêmement compliquée. Alors il y a plusieurs optiques là-dessus, il y a plusieurs façons de lire ça. Effectivement, l'État islamique, dans toute la barbarie qu'il propose, fait peur à tout le monde. Et l'État islamique est devenu l'ennemi à abattre, contre lequel l'Occident est prêt aujourd'hui à faire alliance, même avec Bachar el-Assad, comme en témoigne la magnifique interview du 21 avril en France. Il faut savoir, ceci dit, que l'État islamique a commencé d'occuper des villes de l'Est syrien, des villes comme Raqqa, dès 2013, et que personne n'a rien fait. Personne n'a rien fait, même pas le régime. Le régime syrien qui a bombardé sans relâche Homs, Idlib ou même Alep n'a jamais bombardé Raqqa. C'est-à-dire que c'est comme si ça laisserait presque penser qu'il y a une entente tacite, ou comme si l'État islamique faisait le jeu du régime de Bachar el-Assad en disant, en lui permettant de dire « Mais regardez, les barbares, ils sont là, c'est pas nous les barbares, donc aidez-nous à combattre les barbares, puisque la violence de l'État islamique défie toute concurrence. » Bon, l'État islamique, il y a plein de travaux qui ont été faits. Il y a une journaliste de Libération qui s'appelle Hala Kodmani qui a écrit des articles très très précis dans Libération et dans Le Point ou L'Express, parce qu'elle est allée à Raqqa en 2013 et elle a observé comment l'État islamique fonctionnait. L'État islamique ne peut pas fonctionner sans, au moins au début, un soutien populaire. Et quand ils sont arrivés, ils arrivent vraiment dans des situations de chaos et ils rétablissent un ordre social. Et ça, tout le monde le reconnaît. C'était la guerre civile et tout d'un coup, il y a ces mecs qui arrivent et qui rétablissent une espèce de justice civique ou civile.
Et qui organisent aussi la ville.
Et qui organisent la ville. Qui organisent l'eau, l'électricité, le gaz, bon... Je dis ça parce que je pense que c'est important pour comprendre comment les populations au début, des populations livrées au chaos, se disent « Ah bon, bah, c'est peut-être mieux que rien ». Et Hala Kodmani, dans deux reportages qui ont été diffusés sur Arte ces derniers mois, montre bien comment la terreur, elle se met en place petit à petit. Petit à petit, l'État islamique installe des lois qui sont extrêmement arbitraires et applique la charia, coupe des mains, coupe des têtes, bon. Ceci dit, là où la situation est extrêmement compliquée aujourd'hui, c'est que face à l'État islamique et face à l'armée régulière, loyaliste syrienne, les groupes armés modérés ont eu de moins en moins de soutien. Et effectivement, ce qu'on a vu ces derniers mois, c'est l'allégeance ponctuelle. Alors, est-ce qu'on peut parler d'allégeance ou est-ce qu'on peut parler de stratégie, je ne sais pas, mais ou d'alliance stratégique ponctuelle de certains groupes qui passaient pour être plus modérés, qui pouvaient avoir pour certains des ambitions fondamentalistes islamistes qui ne se revendiquaient pas du tout ni d'Al-Qaïda ni de l'État islamique et qui pourtant, sur le terrain, ont pu passer des accords ponctuels. Voilà. Alors après, pour revenir à la question que tu me posais tout à l'heure sur le parallèle avec la guerre d'Espagne, ce parallèle a été posé de manière très précoce et de manière très pertinente par... un politologue et historien qui s'appelle Jean-Pierre Filliu et qui connaît très bien la Syrie, qui a une position extrêmement démocrate et extrêmement laïque depuis le début et qui a dit très vite « Attention, 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 la Syrie est notre guerre d'Espagne » en voulant dire « Si, comme en 1936, l'Europe ne fait rien et laisse les démocrates et les républicains en 1936 se faire massacrer par les... » En Espagne, en 1936, on a laissé... Hitler testait ses bombes et les républicains se faire massacrer. Et la bombe nous a explosé, enfin explosé à la tête de l'Europe par la suite. Et c'est ce parallèle-là que Jean-Pierre Filliu fait en disant l'attentisme de l'Occident et le refus de vouloir aider les démocrates, de vouloir les aider de manière militaire et réelle et efficace, finira par nous causer du tort parce que ce qui va nous exploser à la figure sera bien pire. Et moi j'ai été très frappée par certaines de ses interventions publiques lors de conférences il y a presque un an, en juin 14, au début, quand on commençait d'entendre parler de l'État islamique, où il disait « mais ça va être terrible, et la cible de l'État islamique, ça n'est pas le Moyen-Orient, puisque ça y est, ils l'ont. La cible de l'État islamique, ça sera l'Europe. » Bon, et bon, après, on voit bien que toutes les séries d'exactions extrêmement spectaculaires et exprès en mise en scène sont destinées à l'Occident. Hala Khodmani avait ce mot fin octobre ou début novembre où elle disait « J'ai beaucoup de tristesse au moment où l'État islamique a exécuté les journalistes qu'il détenait en otage. » Elle disait, j'ai beaucoup de respect et de chagrin pour ces quatre journalistes que je connaissais personnellement, mais la mise en spectacle de leur exécution fait oublier les 1500 civils syriens qui, eux aussi, ont été décapités par l'État islamique. Donc on a quand même ce deux poids, deux mesures. Moi, je suis extrêmement frappée de voir que, par exemple, l'étendue de la catastrophe humanitaire syrienne ne touche rien ni personne, et qu'il a fallu, pour qu'il y ait une mobilisation internationale contre l'État islamique, il a fallu que ce soit les chrétiens irakiens et les yézidis irakiens qui soient expulsés et persécutés par centaines de milliers pour que l'Europe bouge. Il y a 10 millions de réfugiés en Syrie et autour de la Syrie. C'est la moitié de la population. Là, on est très frappé ces jours-ci par les naufrages de migrants, puisque sur les 800 migrants qui sont morts avant-hier, sans doute une bonne partie étaient érythréens et somaliens, mais une bonne partie étaient syriens également. Les réfugiés syriens fuient en nombre depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. On en arrive à des situations où, ce qui pour moi était quand même une chose un peu très étrange, où tout d'un coup, ces gens qui se noient dans la Méditerranée ne sont plus anonymes. Moi, je connais des gens dont des membres de la famille se sont noyés il y a 2 ans. Ce qui me frappe énormément dans cette situation, et ce que je n'arrive pas à comprendre rationnellement, c'est que la France dispose d'excellents experts, parce qu'on a une batterie de politologues, d'historiens, de spécialistes qui comprennent le jeu et les enjeux de ce qui se passe en Syrie depuis 3 ou 4 ans et qui le formulent de manière extrêmement précise en tirant les sonnettes d'alarme, comme je viens de le dire tout à l'heure. Et on a une sorte d'attentisme des pouvoirs publics, et enfin du pouvoir français, qui est difficilement compréhensible.
Ça, tu l'expliques pas, tu enfin, c'est quoi tu
sais... Bon, après, si, on l'explique, puisque enfin, moi je l'explique dans des jeux de pouvoirs internationaux. On a bien vu ce qui s'est passé en août 2013, au moment où Obama avait tiré la ligne rouge en disant... l'utilisation des armes chimiques est la ligne que nous ne laisserons pas franchir. Elle a eu lieu.
Obama et Hollande ont
commencé de se dire, tiens, bah oui, on va bombarder, allons-y, bombardons. Et finalement, ils ont fait marche arrière. Sur le coup, on n'a pas compris pourquoi ils faisaient marche arrière. Moi, j'ai compris pourquoi ils ont fait marche arrière. Un an et demi plus tard, à la faveur d'un commentaire, c'était sur France Culture, un spécialiste de la diplomatie russe, et on parlait de l'Ukraine il y a quelques mois de manière très aiguë. Et ce spécialiste de la diplomatie russe a dit « L'accord en août 2013 sur la non-agression de la Syrie par la France et les États-Unis s'est fait autour de l'Ukraine. » C'est-à-dire qu'il y a eu une promesse ou un accord qui a été passé avec Poutine sur « Attendez, si vous bombardez la Syrie, donc du coup, je ferai plus que simplement récupérer la Crimée. » Donc je pense qu'on a vraiment là affaire à des jeux de pouvoir et d'influence qui vont bien au-delà du seul soulèvement du peuple syrien. C'est ce qui fait que c'est très difficile à comprendre. Quand on superpose... Alors il y a plusieurs cartes superposées qui sont intéressantes. Le pouvoir alaouite en Syrie a bombardé une partie des villes et du pays, mais pas d'autres. Le pouvoir alaouite en Syrie a toujours essayé de préserver les villes où la communauté alaouite était la plus importante, comme s'il y avait une idée derrière la tête de partition du territoire entre qu'est-ce qu'on lâche aux islamistes, et ça on peut le bombarder, et qu'est-ce qu'on récupère comme un État alaouite. Quand on superpose cette carte d'une partition éventuelle, que les Syriens ne souhaitent pas, hein, je tiens à le rappeler, avec les cartes de plans ou de projets de pipeline et de gasoline russes et américains entre l'Irak, l'Iran, la Russie et la mer Méditerranée, on comprend tout. C'est-à-dire que derrière tout ça, l'endroit où les États-Unis et la Russie vont intervenir ou ne pas intervenir est directement en lien avec la question des hydrocarbures, forcément. Les Alaouites sont une minorité religieuse qui sont apparentés aux chiites. Et c'est pour ça qu'on explique, enfin c'est comme ça qu'on peut peut-être expliquer l'alliance entre l'Iran, les Alaouites et le pouvoir d'Assad en Syrie et le Hezbollah au Liban. Les Alaouites sont une minorité confessionnelle qui a été pendant de nombreux siècles assez opprimée. Et cette oppression, elle est intéressante à comprendre parce qu'ils étaient une minorité chiite face à une majorité sunnite. Et elle est importante à comprendre puisque au moment où le parti Baas et au moment où la famille Assad est arrivée au pouvoir en Syrie, la famille Assad a positionné à tous les endroits clés du pouvoir des représentants de cette communauté alaouite. Donc on a eu affaire pendant très longtemps, pendant ces 40 dernières années, à une minorité qui prenait le pouvoir sur une majorité sunnite. Et donc ça, dans tout État, ça crée des dissensions et ça crée des revendications.
Et des jeux d'alliances et des partitions entre sunnites et chiites, quoi.
Oui, ça aussi c'est un axe de lecture qu'on peut aussi superposer. Ouais. Il y a la question des hydrocarbures. La question d'une opposition sunnite contre chiite, elle est très très forte. La question de l'héritage laissé par l'invasion américaine en Irak en 2003 est très très forte aussi, puisque, comme disait un spécialiste il y a quelques jours à la radio, les Américains, quand ils ont envahi l'Irak en 2003, l'Irak était à majorité sunnite avec un pouvoir aussi bassiste, absolument dictatorial et autocratique, hein, mais avec des institutions qui fonctionnaient encore. Et les États-Unis ont voulu imposer sur l'Irak un modèle fédéral à l'américaine. Ça ne reflétait ni la constitution démographique du pays, ni son histoire. Et donc l'invasion américaine a favorisé la prise du pouvoir par des milices, par des groupes chiites qui sont venus opprimer une majorité sunnite. Et donc cette opposition sunnite-chiite, c'est ça qui se joue en plein aussi avec l'État islamique. Il semblerait quand même qu'en ce moment ce soit une ligne de fracture, puisque c'est cette même opposition qu'on retrouve en ce moment au Yémen entre les houthistes qui sont des rebelles chiites qui s'opposent au pouvoir central et l'Arabie saoudite sunnite qui va faire la guerre pour soutenir le pouvoir central au Yémen. Donc effectivement, il y a une ligne de fracture forte. Après, il y a d'autres lignes de fracture. La question kurde est aussi centrale, puisque les Kurdes sont répartis sur quatre territoires, le nord de l'Irak, un tout petit peu en Iran, en Turquie et en Syrie. On l'a vu au moment, cet automne, à l'automne 14, quand la ville de Kobané subissait le siège de l'État islamique. Ce sont les Kurdes qui les ont boutés hors de cette ville. Bizarrement, il était intéressant de voir que le pouvoir turc, qui était à quelques centaines de mètres de là, puisque c'est une ville frontière, n'est pas intervenu. Le pouvoir turc n'est pas intervenu parce qu'ils avaient peur que bouter l'État islamique hors de ces régions-là, ça soutiendrait la prise au pouvoir kurde. Donc toutes ces composantes font effectivement que la situation semble compliquée à comprendre.
Est-ce qu'il peut y avoir des tissages de solidarité, d'entraide, prise de position et de parti pris commun sur le sol syrien vis-à-vis de la question kurde, enfin, du Kurdistan? Est-ce qu'il peut y avoir des alliances locales qui contrebalancerait ce dont tu parles, là, ces conflits internationaux, ces conflits de...
Je ne sais pas quoi répondre. J'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que de manière très ponctuelle, locale, par exemple sur la ville de Kobané, on a vu qu'il y avait des alliances entre les Kurdes et des rebelles syriens pour regagner la ville, à l'État islamique. Après, la question qui se pose aujourd'hui vraiment, c'est qu'est-ce que peuvent des poignées de combattants, et c'est là que le parallèle avec la guerre d'Espagne marche à plein, contre des avions et des barils d'explosifs largués par hélicoptère, et des scuds et des armes chimiques. Donc aujourd'hui, la situation elle est extrêmement très complexe. Ce que l'Occident a, à mon avis, aussi complètement sous-estimé, c'est la façon dont l'islamisme radical, tel qu'il est défendu par l'État islamique, par exemple, pouvait avoir une importance énorme. Et là, la politique d'accueil des réfugiés, elle est en première ligne. C'est-à-dire qu'il y a un énorme camp de réfugiés en Jordanie qui s'appelle Za'atari, où vivent, je ne sais pas, 150 000 personnes, ou peut-être plus. Il y a 2-3 ans, pareil, il y avait une journaliste qui disait « C'est très intéressant de voir comment... Dans ce camp de réfugiés, il faut 15 jours aux organisations européennes type UHCR, type Médecins sans frontières, type pour avoir 150 000 euros. Et en face, on a des organisations musulmanes type Secours islamique avec un discours, le discours de l'Arabie saoudite, qui est un discours extrêmement religieux et conservateur, qui en un jour arrive avec $1 million de matériel. Donc face à des populations qui sont dans un dénuement extrême, et ben voilà, on fait confiance à la main qui nous nourrit. C'est très triste de voir en fait que l'Occident n'arrive pas à anticiper sur ces questions-là. et de ne pas se dire il serait extrêmement urgent d'avoir un discours très très clair. Face aux 10 000 réfugiés syriens, le moment où François Hollande a annoncé très fièrement que la France allait accueillir 500 réfugiés syriens, c'est pas possible d'avoir un discours qui soit complètement en décalage avec la situation. Là, pour connaître un peu les chiffres des associations à Paris qui s'occupent des réfugiés syriens, je pense que depuis le début du conflit, c'est-à-dire 4 ans, il y a eu à peu près 2500 personnes qui ont eu, sans trop de problèmes, leur statut de réfugié politique.
Il y a eu, il n'y a pas longtemps aussi, une focalisation de l'attention médiatique sur le camp de Yarmouk. Alors là, qui a l'air d'être aussi un sacré nœud de conflits internationaux, etc. Enfin, Yarmouk, qui est un camp palestinien.
C'est ça ? Alors, c'est compliqué, cette histoire, effectivement. Yarmouk est un quartier de Damas, ou de la proche banlieue de Damas, à 7 km du centre-ville, donc c'est vraiment pas loin, qui est effectivement un camp palestinien. Alors il faut savoir que suite à la création de l'État d'Israël, les populations palestiniennes se sont réparties sur les États voisins, et qu'il y a une bonne partie, il y a de nombreux Palestiniens qui se sont installés en Syrie, et qui en Syrie n'ont pas eu, aujourd'hui, 70 ans après, ils n'ont pas la nationalité syrienne, ils restent palestiniens. Bon, Yarmouk a été, je pense, à un moment de la rébellion, un endroit de contestation très, très important. Et la politique du régime syrien, la réaction du régime syrien depuis 2 ans est à peu près la même chose que le ghetto de Varsovie, est d'encercler ce quartier et d'affamer les gens. Il y a eu des morts de faim, ça a fait la une des médias, voilà, on a plein d'images affreuses.
Ouais.
Bon. Et ce qui s'est passé il y a 15 jours, c'est que... Mais là, je dois dire que je pense qu'on manque d'informations réelles. Les informations que moi j'ai eues, c'est que l'État islamique aurait pris d'assaut ce camp. Alors après, on a eu d'autres informations comme quoi les groupes palestiniens auraient repoussé ou en partie repoussé l'État islamique. Ça me pose plusieurs questions auxquelles je n'arrive pas à répondre. Est-ce que l'État islamique a pu agir seul ? Est-ce que l'État islamique a agi... C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'alliance stratégique ponctuelle entre l'État islamique et d'autres groupes à tendance fondamentaliste, par exemple Jabhat al-Nusra, qu'il n'était pas au départ, mais qu'il vire de plus en plus. Et puis, comment se fait-il que cette armée syrienne loyaliste, donc l'armée du régime, qui est encore capable de balancer des obus et des barils de l'explosif sur une ville comme Alep, sans relâche depuis 2 ans et demi, ne se soit pas opposée à l'arrivée de l'État islamique de manière aussi proche de la capitale et du pouvoir. Donc là, la question de qui fait le jeu de qui, elle se pose vraiment en plein. Et il ne faut pas se leurrer sur le régime syrien actuel est capable de tout. Et de toutes les manipulations. Ça fait 40 ans que ça dure. En 1982, le régime n'a pas hésité, pour mater une tentative de coup d'État, à raser une ville et à faire 35 000 morts en 3 semaines.
C'est quoi le nom de cette ville ?
Hama. Ça a eu lieu en février 82. Donc, de toute façon, aujourd'hui en Syrie, les exactions sont vraiment le fait des deux côtés. Mais après, l'acharnement sur les populations civiles, que ce soit en termes de bombardement ou de rupture des voies d'approvisionnement et d'affamer le peuple, ça reste un peu l'apanage du régime.
En parlant de ça, il y a donc hier soir, donc, le 21 avril, une interview par France 2 de Bachar el-Assad, il apparaît à l'écran comme ça. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres médias européens qui l'avaient interviewé depuis ce conflit-là, et puis qu'en fait, j'ai l'impression qu'il fait un peu la tournée des plateaux.
Oui, non, mais c'est très très calculé, ça. Cette interview de David Pujadas avec Bachar el-Assad, elle fait suite quand même à une visite qui a eu lieu, je dirais, il y a 4 ou 5 semaines, en mars, une visite de 4 parlementaires UMP à Damas, alors que la France a rompu ses relations diplomatiques avec la Syrie depuis plus de 3 ans. Donc déjà ça, moi, ça m'avait posé beaucoup de questions. Comment est-ce que c'est possible que des parlementaires aillent de leur propre chef rencontrer un chef d'État qui est à la tête d'une guerre contre son propre peuple ? Le conflit a fait au bas mot de 150 000 morts, voilà. Ce que j'avais trouvé très intéressant à l'époque, c'est que et le Quai d'Orsay et le Parti Socialiste avaient réagi de manière très très claire en disant « cette visite est inadmissible ». Après, on peut se poser des questions. France 2 est une chaîne de service public. Même si il plaît à tel ou tel journaliste d'aller entendre le discours du dictateur, pourquoi pas. Bon, quel est, enfin moi la, l'endroit, la question que je pose à ce moment-là, c'est la, la question de la télévision de service public. Et à mon avis, ça n'est pas possible de faire ça sans avoir l'accord du Quai d'Orsay.
Et c'est-à-dire de prévoir, et c'est-à-dire de...
C'est-à-dire que quand Bachar el-Assad, hier soir à la télévision française, affirme qu'il y a eu des contacts entre les services secrets syriens et les services secrets français, il n'y a aucune raison de ne pas le croire, parce que si ça n'était pas vrai, nous aurions eu un démenti du Quai d'Orsay dès ce matin. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense que toutes ces offensives diplomatiques servent une chose, qui est le projet de Bachar el-Assad de se rétablir comme un interlocuteur conséquent et valable dans cette histoire. C'est-à-dire que, alors que pour toutes les chancelleries européennes et occidentales, il y a 2 ans, il était impensable qu'il reste au pouvoir, on s'aperçoit que finalement, ben oui, il va peut-être rester au pouvoir.
Et il peut être intéressant de l'utiliser, ou en tout cas de le considérer comme un rempart vis-à-vis...
C'est ça, vis-à-vis de l'État islamique, ce qui est son discours depuis le début. Donc là, on est quand même, bon, voilà, face à une situation qui n'est pas inédite, mais qui est quand même, bon... Après, voilà, moi j'ai toujours envie de regarder quels sont les véritables alliés de Bachar el-Assad. Poutine, l'Iran, le Hezbollah, bon, des modèles de démocratie laïque, donc... ويا القادة في نباح شدة وتخبيلة ويا القادة في نباح شدة شدة وتخبيلة أهل عيون زرقين أهل عيون زرقين والحواج بني لاي أهل لا قلبي شعل وما صبت لك حيلة من صاب معاك الويلة تحضري فيها يا القليلة وتكوني معايا قليلة خلوني بهذه الحالة وقلبي يبغاها هي بغاني بغالي الفرملية وقلبي يبغاها هي 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 دير هي داويني هي شارة وقريبة ليا يكو عيونها قتالة يا وزينها محورية نعرفها ما هيشي بدالة وقلبي يبغاها هي غالي بغالي العباسية وقلبي يبغاها هي غالي بغالي العنبية سرها يوان من الضار نظرات من حنينة غزالة غزالة وخيام كبار هي تصلح بينا وقلبي يبغاها هي بغالي بغالي مستغال مية وقلبي يبغاها هي بغالي بغالي القبايلية I don't know.
فيها يا وكبر في الحومة المهمة المهمة وطعر فيها من عيونها مرقومة وفي كل صبحة هتشوفيها وقلبي يبغاها هي بغالي بغالي الفرملية وقلبي يبغاها هي بغالي بغالي الصحراوية مشوره ليك شوفي الخاطرك واش يقول ويمكن ما تشارشي فيك اللي بيها راني مشغول وقلبي يبغاها هي بغالي بغالي قسنطينية وقلبي يبغاها هي بغالي بغالي تمش انتيا هرايا راي وهرايا
Check, 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 yo, yo, yo.
Old school, old school. No, no.
We are right now at Radio Beirut, Mar Mikhail, in Beirut.
ما بعرف قديش في راب حقيقي يعني هلا العالم بلش تهتم اكثر.
Je sais pas exactement combien il y a de gens qui font du rap au Liban, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent parce que avec peut-être ces histoires de révolution, de mouvements sociaux et les gens ils veulent qu'on parle de ces sujets-là.
بشؤون الناس
يعني. This is the last song. The newest one.
جعفر الطفار من الهرمل.
Je m'appelle Jaafar Tuffar et je viens de Baalbek.
اسد وحش غابي ما لازم يحكم بالبشر كسوة تشوي لحموزة نطع لحم البقر
مبدئيا انا ما كنت اسمع راب
في مون فيلاج جيكوتي با دو راب
حدا من بحسب البيئة اللي انا عايش فيها يعني بسموها موسيقى شعبية
باسكو لابا لي جون ايز ايكوت بلوتو دو لا ميوزيك تراديسيونيل
يعني ده العالم معودة تسمع الموسيقى اللي بتخليها تفز راسها هيك
سون ابيتيو دو لا ميوزيك كي في بالانسي لا تيت كوم سا دو غوش ا دروات
يعني بتعرف الفرق بين انك توز هيك
اي با دافون ان اريير كوم افيك لو راب Quand j'ai commencé à faire du rap, j'étais en première année d'université. Les paroles m'ont vraiment touché et parce que c'est des gens qui sont vrais, qui sont honnêtes, qui sont ce qu'ils sont quoi. Ils parlent de la vie et c'est pas des menteurs quoi.
I think the more developed people or the more interesting people are the Arab MCs.
Je pense que les gens les plus intéressants, c'est les rappeurs arabes.
Because yani a lot of shit is happening in the region.
Parce que dans la région, c'est vraiment la merde.
C'est pas la même chose quand on traduit les lyriques, mais tu peux comprendre the density or the heaviness in our content.
Tu peux comprendre la densité de nos propos.
Je suis Edouard Abbas, mon nickname c'est Aleph Del. Je suis part du groupe Fari El Atrash aussi. Je suis moitié ivoirien, moitié libanais.
La différence entre l'époque où moi j'ai commencé à faire du hip-hop et maintenant, c'est que maintenant les gens apprécient plus cette musique. Ils se sont intéressés au hip-hop quand les révolutions ont commencé. Aujourd'hui, il y a plein de rappeurs qui parlent de la révolution.
Des choses trop sensibles. Des
choses que tout le monde peut relier à ce qui se passe en ce moment. Parce que tu peux vraiment sentir qu'il y a une révolution en cours partout.
But the people that didn't listen to hip-hop started getting attracted to rappers because...
Mais les gens qui écoutaient pas de rap ont commencé à le faire parce que les rappeurs étaient les seuls à parler de révolution. Avant, c'était très dur pour nous d'organiser des concerts de hip-hop. Quand on allait proposer un événement en disant « je suis rappeur », on nous répondait « tu danses ?»« Non, non, je suis rappeur. » « Tu chantes ?»« Ouais, enfin oui, bon, je chante, mais bon, pas tout à fait quand même. » C'était très dur de leur expliquer, on avait l'impression qu'ils allaient jamais comprendre.
« Sma, sma, écoute, écoute !» C'est comme « check, check, yo, yo !» Mais on dit « sma, sma, ou chouf, chouf !» عهدني اجيت تتفيش ومش بإرادتي ففيت مشواري بالعكس بتأيد بس بإشارتي Somebody pushed me into this life and I didn't want to be here.
ببعلبك ما في فرص عمل زرع لك شقفة أرض بتنكسر بتنزل عبيروت بتشتغل
ببعلبك يا pas de boulot. Si tu cultives la terre, tu récolteras jamais le fruit de ton labeur.
ما بتفق مع الماشين براتي قاعي لهيك ما بستلم شي إذا ما كان تحت إدارتي Je marche pas avec les gens qui cliquent pas avec moi.
بوس دين العالم لتتثبت بالجيش أو جر لك عربية من المنارة عحباش
Et si tu descends à Beyrouth pour travailler, tu dois embrasser les mains des hauts placés pour avoir un poste à vie dans l'armée ou finir dans la rue comme vendeur ambulant fatigué.
العكس اجا من ورا البحث بقراءتي مثل فلسطين كل معرض لحذف جغرافي and I discovered that basically everybody's in danger like Palestine everybody can lose his land like the Palestinian people شاي دي تي تي veux du thé eh Johnny yeah tu l'as dit ou non No? The first two CDs I got were actually the, ironically, the Slim Shady LP.
Les deux premiers CD que j'ai eu, ironiquement, c'était Slim Eminem. Shady LP d'Eminem. Il déteste.
And MC Solar, Paradisiaque. And actually, I liked MC Solar and how he uses his metaphors. It's like, for example, MC Solar, he'd be like talking about burgers, but he's talking actually about...
En fait, j'aime bien MC Solar. J'aime bien sa manière d'utiliser des métaphores. Par exemple, il parle de hamburger pour parler des gens du gouvernement. Tu vois, il est intelligent. Il est simple, parce qu'il est un peu old school. شيك هون بصوت واحد بصوت فشل بصوت ملك الخوف التفت دوز التفع شدوز وتكبر
When I started writing, I started writing in English. I wrote a little bit in French.
Quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé en anglais. J'ai juste écrit un petit peu en français, puis je me suis dit, attends, je vais essayer en arabe. Et depuis que j'ai écrit en arabe, j'ai jamais arrêté. Et puis j'encourage tous les rappeurs à faire ça.
I don't know why there's a lot of people that say, you know, oh, here in Lebanon, that say, you know, hip-hop, hey, it's something that you took from the West and blah, blah, blah.
Je sais pas pourquoi, mais au Liban, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, le hip-hop, c'est quelque chose qu'on a pris de l'Occident. Mais non, c'est pas vrai. Même les samples sont différents. Au lieu de prendre des samples du funk, de la soul, on en prend de...
From Fayrouz, Am Kaltoum, Abdel Halim, our Arabic icons that... You guys never heard of before, you know what I mean? And it's different from what.
Et c'est différent de ce que peuvent faire les Américains ou de ce que peuvent faire les Français.
From what the French are doing, and it's because of the content, because of the content.
Ça vient du contenu, de la manière de parler, de la langue. ابراهيم زبوني الوحيد ببيعه بالداي قلت بخدم واحد ملكي بكسبه ببيروت بالله
كل الأنظمة اللي موجودة عندنا يا أما ديكتاتورية يا أما
شنو لا انا انتوري دو ديكتاتور يعني
جاهز العالم لانه تخلص من هاي الأنظمة عندها 100,000
الى لو بوبل اي بري ا ان فينير افيك سا كوا افيك تو سي سي 1000 بروبليم كو سا كوز دان لا سوسيتي اي دان لا في دو تو لي جور
Yes, I feel free, but I wait for the police to come to get me.
Oui, je me sens libre de dire ce que je veux, mais je m'attends à ce qu'un jour la police vienne m'arrêter pour mes propos.
Every time they
Chaque fois qu'ils trouvent quelqu'un qui représente un danger pour eux, ils le mettent en prison ou ils le tuent.
Maybe for now I'm not dangerous.
Peut-être que pour le moment je suis pas dangereux pour eux.
But sometimes they will take somebody else.
Mais de toute façon, ils finiront par trouver quelqu'un à arrêter.
Or I will do something they will take.
Ou alors je ferai quelque chose qui leur plaira pas.
سوق الأزهار يقدم بطيب المزوزي ويه مازال نسكر مازال ويه نهرس كل شيء ويه مازال نسكر مازال نسكر مازال ويا رويح مادام امك ما هنتنيش بكاتينا ما جيش ويا مازال نسكر مازال Yeah.